pour quelle raison donc êtes-vous profondément chrétien? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas finalement donc devenu musulman? Alors j'imagine que il y a aussi des problèmes avec le dogme musulman, et notamment concernant Jésus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, puisque dans le Coran, Jésus est juste un prophète, il est serviteur de Dieu, il n'a pas été crucifié, et il n'est pas le fils de Dieu. Alors pour vous, qui est Jésus? Est-ce qu'il est Dieu, homme, homme avec un grand H, ou prophète angélique, ou autre chose?
Alors là, vous touchez le doigt sur ce qui fait mal, c'est-à-dire que, en effet, vous avez très bien résumé la grande différence entre on pourrait dire la théologie chrétienne et la théologie musulmane, c'est-à-dire la conception de Dieu en islam et en christianisme. Et la grande fracture, elle est justement sur la personne de Jésus, puisque pour les chrétiens, Jésus appartient à l'être même de Dieu. Et d'où ce titre de fils qui lui est donné et qu'il se donne lui-même d'ailleurs, puisque dans l'évangile de Jean, il insiste beaucoup pour dire qu'il est le fils, que nul ne connaît le Père sinon le fils. Voilà. Pour l'islam, c'est impensable, cette idée d'une filiation divine. L'islam, c'est vraiment l'affirmation d'un monothéisme absolu, intransigeant, radical, qui va jusqu'au refus d'essayer de chercher à connaître Dieu de l'intérieur. En islam, on dira qu'on ne peut connaître de Dieu que ce qu'il a révélé de lui-même, entre autres les attributs, les beaux noms de Dieu, les 99 beaux noms de Dieu. Hein. Et on dira, on peut rien dire d'autre, si bien qu'en islam, il n'y a pas à proprement parler de théologie. Il est le tout autre. Hein. Et donc l'homme ne peut pas prétendre entrer dans sa connaissance, dans son intimité. Alors il y a des courants mystiques qui vont quand même tenter de le faire, mais l'orthodoxie musulmane traditionnelle, elle se refuse à cela. Dans le christianisme, et c'est la démarche des évangélistes et des premières communautés chrétiennes, on essaye d'approfondir qui est Dieu, et notamment à partir du témoignage de Jésus. Et ce que les premiers chrétiens ont expérimenté, c'est que Jésus ne cessait de faire référence au Dieu du judaïsme, hein, à l'Éternel, mais en le désignant comme étant son propre Père, et se désignant lui-même comme le propre Fils. C'est-à-dire que Jésus, dans son témoignage, affirme qu'il a un lien unique à ce Dieu unique. Et cela va donner la théologie postérieure, chrétienne, de la Trinité, qui effectivement est quelque chose d'un peu compliqué pour nos intelligences contemporaines, et sans doute pour les intelligences passées aussi, puisque l'affirmation chrétienne, c'est nous croyons en un seul Dieu, mais ce Dieu se décline en trois. Alors, trois personnes. On est piégé parce que le mot personne, à l'époque où il a été employé par les premiers conciles, dans le cadre de la philosophie grecque, il n'a pas la même signification que le mot personne aujourd'hui. Quand on pense à personne aujourd'hui, on pense à l'individu. Moi, je suis une personne, je suis un individu. La philosophie grecque, des 4e, 5e siècles, la personne, c'est beaucoup plus la fonction. C'est même le mot grec désignait même le masque que l'acteur mettait. Voilà. Donc on est prisonnier un peu aussi de vocabulaire, des mots qui ont changé de sens. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans la foi chrétienne, Jésus vient de Dieu. On va dire qu'il est le Verbe fait chair. Ça, peut-être que les musulmans peuvent sentir un peu quelque chose, en comprendre quelque chose, dans la mesure où pour eux la parole de Dieu c'est important. Voilà, nous disons, cette parole de Dieu, elle s'est fait chair, elle s'est exprimée dans la personne historique de Jésus de Nazareth. Donc là, on a une différence importante en effet, puisque pour l'islam, Jésus est un grand prophète, un des plus grands prophètes. Même le Coran lui accorde beaucoup plus de place qu'à la majorité des autres prophètes, y compris de Mohammed. Mais il ne peut pas être associé à l'être même de Dieu. Voilà, c'est ce qui, pour les musulmans, c'est de l'ordre du associationnisme, associé à Dieu un autre nom que Dieu, presque de l'ordre de l'idolâtrie. Voilà, là, il y a un malentendu très, très, très important. Et puis, bien sûr, le Coran ne reprend pas finalement les trois grands dogmes chrétiens. C'est l'incarnation en Jésus-Christ, en la personne historique de Jésus-Christ. Le Verbe se fait chair. C'est la mort de Jésus. Jésus passe par la mort, par l'épreuve de la mort, pour ouvrir à l'humanité un chemin de résurrection, et il est ressuscité. Et alors que le Coran, sans être très très clair d'ailleurs, mais le Coran, à un moment donné, dit, en parlant des Juifs, dans un passage polémique à l'égard des Juifs, il croit l'avoir crucifié. Donc du coup, la majorité des penseurs religieux musulmans considèrent que Jésus n'a pas été crucifié. Et après, on va dire, mais le Coran ne le dit pas, mais après, on va dire, mais Jésus n'est pas mort, il a été élevé aux cieux, il mourra à la fin des temps pour ressusciter aussitôt et présider au jugement du monde. Ça, c'est toute une tradition musulmane qui dit cela. Certains musulmans pensent qu'il est quand même mort, mais voilà. Après, vous me demandez qui est pour moi Jésus et pourquoi je suis chrétien. Moi, j'adhère à cette foi-là. Alors, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on adhère à une foi? On adhère à une foi souvent d'abord parce qu'on l'a reçue et parce que l'on a été éduqué dans ce paysage mental et ce paysage spirituel. Et personnellement, ma foi au Christ, elle est dans ma tête, mais elle est aussi dans tout mon corps. Parce que j'ai 67 ans et je peux dire que j'ai 67 ans de vie chrétienne. Comme d'autres sont musulmans depuis leur naissance et sont imprégnés complètement. Voilà. Alors bien sûr, à un moment donné où on fait un choix, on dit intellectuellement j'adhère. Et aussi parce qu'on a une vie de foi, une vie spirituelle, une relation au Christ, voilà. Mais c'est très compliqué, ce qui nous fait adhérer à une foi et durer dans une foi. Certains, à un moment donné, changent de foi, passent d'une foi à une autre, parce que, justement, ils n'arrivent plus à adhérer de tout leur être, c'est-à-dire aussi bien intellectuellement que émotionnellement, à la doctrine de telle ou telle religion. Hein. Mais en même temps, je trouve que c'est un sacré pari, parce que, comment se débarrasser notamment de tout un imaginaire qui va avec. L'exemple que je donne souvent, c'est Roger Garaudy, qui bon, aujourd'hui est un peu oublié, mais qui était un penseur marxiste de famille protestante à l'origine, qui, dans la dernière partie de sa vie, est devenu musulman. Mais la lecture que Garaudy faisait de l'islam, il plaquait sur l'islam la théologie de la libération chrétienne. C'était assez étonnant. Et peu de musulmans, en fait, se retrouvaient dans son discours. Parce qu'il avait été tellement, tout en étant marxiste, pendant longtemps, il avait été façonné dans son enfance et dans sa jeunesse par le christianisme, un christianisme protestant libéral.
On parlait tout à l'heure des dogmes du Coran qui peuvent fâcher un chrétien, et notamment celui de la crucifixion. Donc il n'a pas été crucifié. Alors je ne sais plus quel est le verset exact, c'est bon, bref. Mais on dit dans ce verset, alors ça dépend des traductions, c'est un sosie, ou que c'est quelque chose à sa semblance, ou pour certains sunnites, ça peut être Judas d'ailleurs aussi, qui a été crucifié à sa place. Mais, et vous, quelle est votre lecture, plus d'ailleurs spirituelle, de ce verset en particulier ?
Moi, en particulier parce que je travaille depuis longtemps avec Rachid Benzine, donc je suis attentif à une approche historico-critique et anthropologique du texte coranique. Et en ce qui concerne ce verset qui laisse entendre que Jésus n'a pas été crucifié, il est énoncé dans un cadre de polémique avec les Juifs, vraiment. Hein. C'est pas une attaque contre les chrétiens ou contre le christianisme. D'ailleurs, dans le Coran, il n'y a pas d'attaque vraiment contre les chrétiens ou contre le christianisme, parce que il n'y avait pas de chrétiens à la Mecque et il n'y en avait pas à Médine. Hein. Les chrétiens étaient aux alentours, ils étaient dans les contrées qui touchaient l'Arabie, en particulier au Yémen, en Syrie. Mais à la Mecque et à Médine, Muhammad n'a pas été confronté directement aux chrétiens. C'est seulement après, quand il est chef de communauté politique à Médine, qu'il est amené à se préoccuper des menaces que représentent les Byzantins ou les Roumis sur l'Arabie, puisqu'à cette époque-là, les Byzantins et les Perses cherchaient l'un et l'autre à avoir le contrôle des routes de l'Arabie. Mais finalement, dans le texte coranique, l'évocation des chrétiens, elle est très rapide et la polémique n'est pas si forte que ça. C'est après qu'on va lire un certain passage du Coran comme étant des textes qui s'adressent aux chrétiens. Mais dans un premier temps, c'est pas le cas. Donc moi, je suis attentif d'abord à ça. Vous évoquez la tradition musulmane, une tradition musulmane qui dit qu'un autre a été crucifié à la place de Jésus. Pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les Juifs disent « nous l'avons crucifié » ou « auraient dit nous l'avons crucifié ». En fait, c'est une tradition ancienne qui précède le Coran, puisqu'on a des groupes de judéo-chrétiens, donc de gens qui s'inscrivaient dans l'histoire du judaïsme, qui avaient reconnu Jésus, mais qui n'acceptaient pas l'idée de la crucifixion. Disant c'est pas possible, notamment les Docètes, c'est pas possible que Jésus ait été crucifié. Donc un autre a été crucifié. Alors si un autre a été crucifié à sa place, qui ça peut être ? Alors on a parlé de Judas, on a parlé de Thomas, on a parlé aussi de Simon de Cyrène qui avait porté sa croix. Voilà. Donc ça montre en tout cas que le texte coranique entre en résonance avec d'autres récits qui circulaient dans cette région au moment où de l'énonciation coranique.
On va parler donc de sujets plus sociétaux actuels. Comment expliquer notamment la fascination pour l'islam ces dernières années ? Alors j'entends par là que les mosquées sont de plus en plus nombreuses et remplies. Les églises ont du mal à se renouveler peut-être. Qu'est-ce que vous pensez donc de cela ? Et que pensez du discours eschatologique qui est très présent dans une grande partie du Coran et aussi dans les prêches le vendredi ? Et qui est absent donc souvent des prêches chrétiens.
Alors, il faut voir si on parle de la situation française, si on parle de la situation mondiale, et les deux s'interpénètrent aussi. Parce que vous releviez, les mosquées sont de plus en plus remplies, les églises ont du mal à se renouveler. Ça, c'est vrai de la France et d'une partie de l'Europe occidentale qui se déchristianise à une vitesse grand V. Hein. Ce n'est pas la réalité à l'échelle du monde, puisqu'à l'échelle du monde, le christianisme se porte très très bien. Il touche même de nouvelles contrées. On pense que dans 25 ans, 30 ans, la Chine sera le premier pays chrétien du monde, plutôt chrétien évangélique protestant, hein. Mais il y a des bouleversements dans le monde assez inattendus. Donc quand on regarde la réalité des religions, il faut prendre à l'échelle du monde. Maintenant, ce que vous dites d'un nouveau engouement pour l'islam est vrai. Parce que je crois qu'on peut parler à l'échelle du monde, et la France est concernée en raison d'une importante partie de sa population qui aujourd'hui fait référence à l'islam. Il y a depuis surtout 45 ans un réveil de l'islam. C'est-à-dire que l'islam s'était un peu assoupi pendant des siècles. Il était présent dans certaines contrées du monde, mais il n'était plus dans une dynamique d'expansion. Or, depuis 45 ans, il y a un réveil qui s'est produit à la faveur des bouleversements géopolitiques, à la faveur de la découverte puis de l'exploitation du pétrole et du gaz dans un certain nombre de pays musulmans, qui s'est produit aussi à la faveur de l'effondrement de ce qui, à un moment donné, est apparu à certains comme une alternative, à savoir le marxisme, hein, l'effondrement des régimes communistes. Donc voilà, on a ce grand réveil de l'islam, qui est en plus porté par des grands mouvements qui, eux, ont plus que 45 ans, mais qui sont devenus extrêmement dynamiques depuis 45 ans. Quand je dis 45 ans, c'est après la guerre du Kippour, quand les pays producteurs de pétrole, sous la direction de l'Arabie Saoudite, décident de fixer désormais les prix du pétrole. Ce qui a bouleversé l'économie mondiale et qui a été, pour ces pays et producteurs de pétrole, une source d'enrichissement extraordinaire. Et en Arabie Saoudite en particulier, les savants religieux ont obtenu des princes que toute une partie des royalties acquises avec l'argent du pétrole servent à la diffusion de ce qu'ils considèrent être le bon islam, l'islam wahhabite. Donc il y a vraiment un mouvement de réislamisation du monde qui s'est lancé. Mais alors donc vous avez ce mouvement, à la fois le mouvement qui vient de l'Arabie Saoudite, qui est le mouvement wahhabite, qui date lui du XVIIIe siècle, et puis vous avez le mouvement des frères musulmans qui lui est plus récent, mais qui date quand même des années 1920, qui est aussi un mouvement de nouvelle islamisation du monde. D'abord de réislamisation des musulmans, et puis ensuite d'expansion de l'islam. Et cette nouvelle étape dans l'islam, on ne l'avait pas vue depuis des siècles, puisque l'islam s'est développé très très rapidement à travers le monde dans les années qui ont suivi l'énonciation coranique. Je veux dire que 50 ans après la mort du prophète, l'islam a atteint l'Asie, a atteint une partie importante de tout le pourtour méditerranéen. Hein. Il y a eu une grande expansion qui à un moment donné, a été stoppée, en particulier avec l'essor du monde européen, la conquête du monde par l'Occident. Hein. Et puis, voilà, on a une nouvelle étape. Alors, je pense que ce dynamisme de l'islam qu'on observe, il est en partie lié à cela, mais pas seulement. Il est aussi lié au fait que les gens ont toujours besoin de nourrir en eux de l'espérance, d'avoir un système d'explication du monde et surtout un système d'explication qui les porte en avant. Et l'islam représente une espérance, comme le marxisme a pu représenter une espérance, comme le judaïsme représente une espérance, comme le christianisme, etc. L'islam représente une espérance, mais alors une espérance justement, et vous l'avez bien dit, qui porte sur le jour du jugement. D'ailleurs, dans la Fatiha, Dieu est désigné comme le roi du jour du jugement. Et on sent bien que l'espérance musulmane, c'est ça, c'est un jour, enfin, il y aura une vraie justice. Je crois que si on voulait résumer d'ailleurs les trois grandes familles issues du monothéisme abrahamique, on pourrait dire le judaïsme, c'est la religion de l'espérance. Les juifs s'en sont ramassés plein la figure au cours de l'histoire. Ils ont souvent été défaits, dispersés, et toujours, ils ont dit, mais un jour, ça ira mieux, quoi. C'est ça, le judaïsme. C'est un jour, ça ira mieux. L'an prochain, Jérusalem. Le christianisme, je crois qu'il est porteur de l'espérance de la rencontre de Dieu, mais dans le partage, dans l'entrée dans la vie divine, hein, et avec cette grande certitude que l'on trouve cependant dans un seul texte, dans la première lettre de Saint Jean, Dieu est amour. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent le christianisme c'est la religion de l'amour, quand bien même les chrétiens sont loin d'être des plus exemplaires que les autres en général. Et puis l'islam, je crois, c'est la religion du jugement ou de la rétribution, pas au sens du tribunal, mais c'est enfin, il sera fait justice à tous parce que dans cette histoire humaine, il y a trop de choses qui détruisent l'homme, il y a trop d'injustices, et ça représente une espérance forte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve dans un certain nombre de discours musulmans, dans les mosquées ordinaires, comme chez les groupes extrémistes, ou en tout cas qui veulent purifier la terre de tout ce qu'ils détestent, eh bien, on retrouve très très fortement ces discours de type eschatologique et apocalyptique. C'est très frappant de voir actuellement, par exemple en France, le succès qu'a un petit livre qui est composé à partir d'un livre assez ancien, du 10e siècle, je crois, qui s'appelle « Les tourments de la tombe ». C'est très, très impressionnant. C'est de voir comment on prêche aujourd'hui dans beaucoup de mosquées cette idée que vous devez penser à votre mort. Et en fonction de ce que vous avez vécu, eh bien déjà dans la tombe, si vous avez une bonne vie, eh bien vous serez déjà dans une certaine félicité. En revanche, si vous avez une vie à laquelle on peut apporter beaucoup de reproches, eh bien vous risquerez d'avoir des tourments dans la tombe déjà maintenant. Et ça habite vraiment beaucoup les gens qui fréquentent les mosquées, notamment les jeunes, quoi. Et vous faites bien de souligner, alors c'est surtout dans le christianisme occidental contemporain. Je suis pas sûr qu'il en aille de même dans d'autres contrées du monde, hein. Mais c'est vrai qu'en France en particulier, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, on ne prêche plus, sauf dans certaines officines ou certaines paroisses traditionalistes, voire intégristes, on ne parle plus de l'enfer, on ne parle plus des menaces qui pourraient être évoquées par rapport au comportement des gens. On tient plus ce discours-là, alors que dans les mosquées, on le tient.
Alors, pour continuer sur l'eschatologie, est-ce que vous croyez au retour du Christ, à la parousie, donc ? Et si oui, sous quelle forme ? Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit attendre le retour en personne ? Ou, enfin voilà, vous allez peut-être nous en parler. Sachant que, pour l'islam et le Coran, Jésus est l'indice de l'approche de l'heure, et que, même pour une branche, pour ceux qui connaissent un peu plus dans la prophétologie chiite, ça c'est Henri Corbin qui parlait de ça, il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Jésus. Le Mahdi étant celui qu'on attend à la fin des temps, qui va guider les fidèles musulmans.
Oui, tout à l'heure, on a parlé de la place de Jésus dans le texte coranique, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir que dans la tradition musulmane, donc qui prolonge le texte coranique, dans la pensée musulmane, Jésus a une place unique, puisqu'il nous est dit qu'en effet, il sera celui qui présidera au jugement des hommes au moment de la fin de l'histoire, la résurrection finale. Et alors à partir de cela, il y a des récits différents, des approches différentes. L'approche chiite n'est pas la même que celle de l'orthodoxie sunnite. Et comme vous venez de le dire, en effet, Jésus sera l'annonciateur, le Mahdi, une sorte de messie annonciateur de la fin des temps et du jugement. Dans le christianisme, les choses sont beaucoup plus imprécises. C'est-à-dire quand on prend les textes de référence canoniques des écritures chrétiennes, les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul, de Pierre et Jean et Jacques, il ne nous est rien dit sur ce que sera vraiment le retour du Christ. Simplement, il y a l'annonce que le Christ reviendra à la fin des temps. Et dans le credo que les chrétiens récite, hein, il y a cette phrase « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Mais c'est le Christ éternel, c'est-à-dire que c'est le Verbe éternel qui reviendra. Dans le christianisme, il y a le Jésus de l'histoire, il y a le personnage historique de Jésus de Nazareth, et puis il y a le Verbe qui s'incarne dans cette personne. Donc c'est la personne, c'est le Verbe qui s'incarne, qui jugera. Mais le christianisme ne nous donne pas de détails sur cela. Il n'y a pas de vrai récit sur le retour du Christ, quoi. Okay. Alors le paraclet, c'est encore autre chose. Le paraclet, c'est l'Esprit Saint. Là, vous soulevez une autre question difficile, parce que dans le débat théologique entre chrétiens et musulmans, il y a toute cette discussion sur le paraclet, paraclétos ou paraclitos. C'est une question de voyelle. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, en particulier, c'est très développé dans l'Évangile de Saint Jean, « Je vous enverrai un autre moi-même, un autre défenseur qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit, l'Esprit Saint. » Et le terme employé, c'est « parakletos », qui, en grec, évoque le défenseur, l'avocat. Mais si au lieu de « parakletos », on a « paraklitos », eh bien, on a l'évocation d'un louanger, enfin, d'un personnage glorieux. Et donc, pour les musulmans, quand ils prennent le texte Saint Jean, d'ailleurs, c'est pas toujours le cas, eh bien, ils disent, en fait, c'est le prophète qui était annoncé. puisque le nom de Muhammad, c'est le louanger, le louer, le glorifier.